Je ne sais pas si, comme moi, vous aimez boire votre café vraiment très chaud, même quand il fait 40 degrés, comme aujourd'hui. Alors, si vous ne prenez pas de café, vous remplacez par thé ou chocolat chaud ou ce que vous voulez. Imaginez un bon café qui vient tout juste d'être préparé. Vous approchez votre cuillère, vous ressentez une chaleur qui s'en dégage. Mais si vous le laissez un peu trop longtemps, le café devient vite tiède. Et là, c'est pas possible. De la même manière, notre foi peut devenir tiède. Et je vous invite à lire dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, versets 14 à 22. La référence s'affiche ici, et puis le texte biblique également, si vous souhaitez lire, il est projeté ici. J'ai voulu tout mettre sur une même diaporama, mais sinon n'hésitez pas à suivre aussi dans votre traduction. Nous arrivons à la fin d'ailleurs de notre parcours sur les chapitres 1 à 3, et notamment les lettres aux sept églises, et nous terminons aujourd'hui avec la lettre à l'église de Laodicée. À l'ange de l'église à Laodicée, écrit : voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni bouillant ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis « Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien » et que tu ne sais pas que tu es malheureux, pitoyable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu t'enrichisses, des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, un collyre pour oindre tes yeux afin que tu voies. Moi, je reprends et je corrige ce que j'aime. Sois donc zélé et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. L'église de Laodicée, donc la septième à laquelle Jésus s'adresse, on est tout en bas à droite ici sur la carte, au sud-est. Alors c'est quoi le message que le Seigneur Jésus adresse à ces chrétiens de la ville de Laodicée, il y a quelques 2000 ans en arrière, et le message pour nous aujourd'hui? Nous sommes devant une lettre sévère, peut-être même l'une des plus sévères si on la met en regard de la lettre à Sardes, dont on avait déjà parlé au début du chapitre 3. Beaucoup de reproches, aucun éloge, aucun sujet de louange. Et pourtant, contrairement à plusieurs autres lettres, celle-ci là, ne mentionne aucunement la présence de personnes avec un enseignement hérétique. On l'avait vu dans d'autres lettres. Il n'y a pas non plus mention de persécuteurs, de persécutions. Il n'est pas fait mention non plus d'un reste qui est fidèle, comme c'était le cas à Sardes. Et pourtant, je viens de le dire, la lettre à Sardes, elle était déjà terrible. Mais ici, à Laodicée, non seulement il n'y a pas d'éloge, mais il n'y a même pas un petit groupe de personnes qui semblent un peu sortir du lot, un petit reste fidèle, rien de tout ça. Alors, quel est le bilan que Jésus dresse de l'église de Laodicée? Tout d'abord, au verset 15, « Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. » Ça peut paraître surprenant ici, parce que selon nos critères à nous, on aurait plutôt tendance à dire qu'il faut être bouillant, mais surtout pas froid. Bouillant, ça veut dire zélé pour le Seigneur. Par contre, froid, ça pointe du doigt un manque d'investissement, voire même une indifférence, une nonchalance. Mais pour le Seigneur Jésus, il vaut mieux être froid ou bouillant, mais pas tiède. Qu'est-ce que Jésus veut dire ici ? Les choses s'expliquent quand on regarde au contexte géographique de la ville de Laodicée. Laodicée se situait entre les villes de Hiérapolis, je mets une petite carte ici, c'est un peu petit, mais voilà, ça donne quelques repères. On est à l'est d'Éphèse, en plein dans la Turquie actuelle. On est entre Hiérapolis, un petit peu au nord, et puis Colosse, un petit peu sur l'est de la ville. Et puis à proximité de Hiérapolis, il y avait des sources d'eau chaude, qui sortaient à une température quand même assez élevée, pas loin de 80 degrés. Et l'eau chaude était recueillie à Hiérapolis avec des vertus médicinales. Donc c'est très chouette tout ça. Peut-être même que si vous êtes allé en Turquie, vous avez vu ces sortes de falaises ou de terrasses de calcaire qui sont en fait des vestiges de ces sources d'eau chaude. Et ces eaux donc sortaient à hauteur de Hiérapolis et puis ensuite elles continuaient d'avancer jusqu'à arriver à Laodicée. Mais en avançant, elles tiédissaient. Elle tiédissait, comme semble le suggérer ici notre texte. Et ces eaux tièdes étaient nauséabondes, nuisibles même pour la santé de ceux qui pouvaient peut-être en boire. D'ailleurs, c'était une des difficultés de la ville de Laodicée d'arriver à faire venir de l'eau potable. Et puis, en continuant leur parcours, ces eaux arrivaient à Colosse, où là, elles étaient beaucoup moins tièdes, elles étaient même fraîches. Et donc, on pouvait les boire, elles étaient utiles. Pour le dire autrement, l'eau très chaude de Hiérapolis était utile et bienfaisante. L'eau qui était à Colosse, bien plus bas, était fraîche, utile aussi. Mais l'eau tiède qui coulait près de Laodicée, elle était inutile et même elle pouvait engendrer des maladies. Et donc, cette parole de Jésus au verset 15 prend tout son sens quand on regarde à ces données géographiques. Les chrétiens de Laodicée sont tièdes, tout comme le sont les eaux qui se déversaient devant la ville. Jésus compare le comportement des chrétiens de Laodicée à l'eau de leur ville. C'est un comportement qui inspire le dégoût. Cette tiédeur, elle est synonyme d'inutilité. Ils ne servent à rien. L'église de Laodicée n'est ni froide, ni bouillante. Il n'y a chez elle aucun des traits de caractère qu'on pouvait voir dans d'autres lettres. Il n'y a pas le don pour le service, il n'y a pas l'amour les uns pour les autres, il n'y a pas non plus la défense de la vérité, il n'y a pas la persévérance dans la souffrance pour le Seigneur, rien de tout ça. L'église de Laodicée est une église confortable. Le compromis avec la culture ambiante est confortablement installé. C'est finalement une église où il ne se passe pas grand-chose, une église où il n'y a pas de conviction majeure, une église qui ne va pas tirer les implications concrètes de ce que c'est que la foi en Christ, foi dont il se revendique pourtant. Mais une église qui a tendance à se fondre avec le reste de la population de la ville. Seulement, Jésus souhaite que son Église soit entière de cœur, que les chrétiens soient entiers de cœur. Jésus ne veut pas de ce qu'on pourrait appeler une apathie spirituelle. Jésus préfère la clarté, l'engagement. Froid, c'est clair. Bouillant, c'est clair. Et il y a l'engagement en plus. Mais tiède, ça ne sert vraiment à rien. Je cite John MacArthur dans son commentaire sur le livre de l'Apocalypse. Il dit ceci : « Celui qui est bouillant, c'est celui qui est spirituellement vivant et qui possède la ferveur d'une vie transformée. Par contre, celui qui est froid, c'est indubitablement celui qui rejette Jésus-Christ. L'Évangile ne lui fait ni chaud ni froid. Il ne suscite en lui aucune réponse spirituelle. Il ne s'intéresse nullement à Christ, à sa parole ou à son Église. Il ne s'en cache pas. Il n'est pas hypocrite. Celui qui est tiède n'appartient à aucune de ces deux catégories. Il n'est pas véritablement sauvé, mais il ne rejette pas ouvertement l'Évangile. Il fréquente une église et il affirme connaître le Seigneur. À l'instar, à l'exemple des pharisiens, il se contente de pratiquer une religion marquée par la suffisance. C'est un hypocrite qui joue un jeu. Ce sentiment que ressent Jésus ici ne se trouve nulle part ailleurs dans la Bible. Cette apathie spirituelle des chrétiens lui donne une véritable nausée. Regardez ce qu'il dit. « Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni bouillant ni froid, je vais te vomir de ma bouche. » Alors c'est une image, bien sûr, mais une image quand même qui est très forte, très forte. Un dégoût, tout comme les eaux tièdes qui coulaient devant la ville de Laodicée, qui était dégoûtante et qui donnait la nausée. On peut rencontrer des personnes dans notre vie qui, tout en professant une foi chrétienne, n'ont pas renoncé à la pensée du monde, sont marquées par le pluralisme, par la tolérance, et ne se laissent pas vraiment toucher par ce que enseigne la Bible. Ta parole est une lampe devant mes pas, comme on vient de le chanter, ça ne veut rien dire vraiment pour eux. Ces personnes, elles croient en Jésus. Elles croient en la grâce de Jésus. Mais une grâce bon marché. Une grâce où on a envie de prendre ce qu'on veut, mais on ne s'engage pas trop. Et ça, c'est un danger qui menace chacun, chacune, chaque église. Il nous faut être vigilants. Le bilan ne s'arrête pas là. Au verset 17, Jésus reproche une deuxième chose à l'église de Laodicée, d'avoir une mauvaise appréciation d'elle-même. Parce que tu dis « je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien », on lira la suite après. En fait, cette appréciation, elle est très loin de la réalité. La raison première de sa tiédeur, c'est justement le contentement de soi, l'autosuffisance. Être tiède, ça commence par être aveugle sur sa propre condition. Et là encore, il y a des choses qui peuvent s'expliquer par ce que vivaient les habitants de Laodicée, cette ville de Laodicée, au 1er siècle, à la fin du 1er siècle de notre ère. C'était une ville très riche. Elle était à l'intersection d'un certain nombre de routes commerciales. C'était un des centres commerciaux les plus importants de cette province de Rome. Elle était renommée en particulier pour un certain type de laine, une laine de couleur noire, qui était utilisée pour la confection de vêtements. Une autre chose à mentionner sur le contexte de cette ville, c'est qu'une trentaine d'années plus tôt, donc autour de l'an 60, il y a eu un tremblement de terre qui a renversé et détruit la ville. Et les habitants de la ville n'ont pas eu besoin de solliciter l'aide de Rome pour la reconstruction de la ville. Ils ont pu, par eux-mêmes, parce que la ville avait beaucoup de besoins, beaucoup de richesses, pardon, de biens, ils ont pu subvenir eux-mêmes à la reconstruction de la ville. Et on peut encore noter une troisième chose, c'est que dans cette ville de Laodicée, il y avait une école de médecine réputée pour avoir justement mis au point un collyre qui permettait de guérir d'un certain nombre de maladies au niveau de l'œil, un collyre, donc un produit pour les yeux. Alors par conséquent, quand vous mettez tout ça bout à bout, ça donne des habitants avec une certaine fierté, une certaine autosuffisance. Et de toute évidence, cette fierté, elle était présente aussi dans l'église de Laodicée. Du coup, Jésus ne mâche pas ses mots, il dit ceci dans la suite, alors je relis le début, hein. « Parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et que tu ne sais pas qu'en fait tu es malheureux, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. » Il ne mâche pas ces mots-là. Jésus décrit les chrétiens comme des mendiants aveugles et nus. Malheureux, pitoyables, pauvres, malgré le commerce prospère de la ville. Aveugles, malgré ce collyre, ce médicament pour les yeux qui leur permettait de combattre la cécité et d'autres choses. Nus, malgré cette fameuse manufacture de laine qui leur permettait de fabriquer des vêtements. Ils n'ont besoin de rien, disent-ils. Mais s'ils peuvent subvenir à leurs besoins sur le plan de la vie économique, du vêtement et même de la santé, ils ne peuvent cependant pas se passer de Dieu, de sa grâce, pour tout ce qui concerne les choses spirituelles. L'Église de Laodicée est riche sur le plan matériel, mais elle est pauvre spirituellement. Tout l'inverse de l'Église de Smyrne, dont on avait lu au chapitre 2, verset 9, qu'elle est pauvre sur le plan matériel, mais elle est riche pour Dieu. Et ça, ça plaît au Seigneur, la richesse pour lui, et non pas la richesse matérielle. Nous avons là une idée de la manière dont Jésus voit ce qu'on pourrait appeler les chrétiens de nom. Ceux qui se disent chrétiens, mais qui ne sont pas réellement engagés envers lui. De telles personnes sont spirituellement des mendiants, aveugles et nus. Ce sont des mendiants parce que ces personnes n'ont pas réellement ce qu'il faut pour acquérir le pardon de Dieu. Elles sont aveugles parce qu'elles n'ont pas conscience de l'état réel de leur pauvreté spirituelle. Elles n'ont pas idée du danger qu'elles encourent. Elles sont nues parce qu'elles ne possèdent pas les habits adéquats pour se tenir dans la présence de Dieu. Ce sont des choses qui peuvent être difficiles à entendre, mais en même temps, c'est le bilan que Jésus pose ici. Et inutile de le contredire. Il est, comme on l'a vu au verset 14, il est l'Amen. Ce même mot qui est employé très souvent dans les évangiles par Jésus quand il dit « Amen, Amen » ou « En vérité, je vous le dis ». S'il se désigne comme étant l'Amen, ça signifie que sa parole est vraie, véridique, authentique. Sa parole est aussi son jugement, son appréciation, son vrai, fiable, inébranlable. Il est le témoin fidèle et véritable. Si nous n'y prenons pas garde, le risque, c'est de se reposer sur les bénédictions de Dieu. Être en bonne santé, avoir un travail qui nous permet de subvenir à nos besoins, d'avoir un certain nombre de biens qui nous apportent un certain confort matériel, et j'en passe. Se reposer sur nos victoires, même nos victoires sur le péché. Se reposer sur nos propres forces, car nous en avons, même si elles sont bien petites, à côté de celles de Dieu. La prospérité extérieure peut être une tentation terrible, qui peut conduire à une certaine forme d'autonomie et de tiédeur spirituelle à l'intérieur de notre être, et donc notre foi en Dieu. Et face à ce bilan, Jésus donne au verset 18 un conseil. « Je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu t'enrichisses, des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies. » C'est curieux ici. À tellement d'autres endroits, même dans les lettres que nous avons parcourues, Jésus dit « Je te dis de, je t'ordonne de. » Et ici, il dit « Je te conseille. » Je te conseille. Il me semble que ça fait ressortir quelque chose d'important, c'est la grâce de Dieu. Jésus donne un avertissement, parce que c'est clairement un avertissement ce qu'il y a dans le bilan qu'il vient de dresser. Mais en même temps, qui dit avertissement dit qu'il y a espoir. Espoir pour un renversement, pour un changement. Ça nous rappelle que le temps de la grâce, il est encore présent. Jésus avertit encore aujourd'hui, avec une certaine tendresse, avec patience, avec amour. Je te conseille, nous dit-il, à chacun individuellement. Et son conseil ici, il est triple. Tout d'abord, acheter de Jésus de l'or éprouvé, acheter de Jésus des vêtements blancs et acheter de Jésus un collyre pour les yeux. Ça, c'est une bonne nouvelle pour des mendiants, des aveugles et des nus. Certains ont pensé comprendre ici le fait qu'on pouvait acheter son salut à Jésus. Ou peut-être sans aller jusque-là, qu'on pouvait acheter des bénédictions auprès de Dieu. Mais il ne faut pas se laisser troubler ici par le verbe « acheter ». Ce verbe, en fait, avait un sens tout particulier pour les habitants de Laodicée, qui étaient, comme je le disais tout à l'heure, à un carrefour commercial, et ce verbe « acheter », ils le conjuguaient à longueur de journée. C'était leur quotidien. C'est comme si Jésus se comparait à un marchand qui venait là pour visiter la ville de Laodicée pour vendre ses articles, et qui entrait en concurrence avec d'autres marchands et qui leur dit « Venez, venez chez moi. » Venez acheter chez moi. Il y a bien d'autres textes de l'Écriture qui disent venez, mais c'est gratuit, parce que c'est gratuit. Mais Jésus utilise ce langage de l'achat ici pour toucher au cœur, pour toucher au quotidien de ces marchands, de ces personnes de Laodicée. Et on peut noter que chacune de ces trois choses qu'il invite à acheter ici dans son conseil représente le salut. Aux richesses matérielles, aux vêtements matériels, aux collyres matériels, Jésus nous invite à venir à lui pour nous approprier des richesses spirituelles, des vêtements spirituels et une vue spirituelle. On peut encore ajouter que l'accent n'est pas mis sur le mot « acheter », mais plutôt sur « acheter chez moi » ou « de moi ». On peut avoir dans d'autres traductions. Les habitants de Laodicée se croyaient autosuffisants. Ils possédaient un certain nombre de choses, mais ils sont invités ici à reconnaître qu'en fait, ils ont besoin de Jésus. Ils ont besoin d'entrer dans son échoppe, dans sa petite boutique, et dire « oui, j'ai besoin de quelque chose là ». Ils ont besoin de reconnaître que leur suffisance ne peut être que en lui, grâce à lui, grâce à ce que lui, Jésus, a accompli. Ne comptez plus sur vous-même, leur dit Jésus, mais sur moi. Et il nous dit à nous aujourd'hui aussi, ne comptez pas sur vous-même, mais sur Jésus lui-même. On peut avoir toutes les richesses du monde et finalement être pauvre devant Dieu. On peut porter des habits de marque, même de grandes marques, mais être nu devant Dieu. On peut être à l'origine d'un médicament miracle pour les yeux, mais être aveugle devant Dieu. Jésus invite les habitants de Laodicée et il nous invite nous aussi à venir à lui en abandonnant tout ce que nous tenons pour cher à nos yeux. Que ce soit la richesse, dans le cas des Laodicéens, la manufacture de cette laine noire ou leur collier pour les yeux, notre sentiment d'autosuffisance, notre orgueil, notre santé, notre succès, notre réputation, nos biens matériels, etc., etc. Laissons tout ça et venons à lui pour acheter de lui, chez lui, les vraies richesses. Jésus est la seule véritable richesse. Il a le pouvoir d'enrichir notre pauvreté. Il a le pouvoir de vêtir notre nudité. Il a le pouvoir de guérir notre aveuglement. Et donc, il nous dit, achetez de l'or éprouvé, l'or des vraies richesses, des richesses qui sont spirituelles, qui découle de ce que Jésus a accompli, du salut qu'il a accompli par amour pour nous. Le fait que cet or ici soit éprouvé, épuré, ça dit quelque chose aussi de la séparation d'avec le monde, d'avec le mal, d'avec l'idolâtrie. Pas de place pour le compromis avec le monde. Est-ce que Jésus est notre seule véritable richesse ? Ou bien est-ce que nous pouvons parfois avoir tendance à rechercher notre bonheur, notre satisfaction dans des choses de ce monde qui sont bonnes en soi si on les utilise, mais pas pour rechercher notre satisfaction. La musique, les relations, le sport, le cinéma, le pouvoir, tout ce qui est lié à la sexualité, la notoriété, l'argent. Prenons conscience, si ce n'est pas déjà le cas, que en lui, nous avons, en lui, en Jésus, tout ce qui est nécessaire pour notre bonheur, pour notre satisfaction. Acheter des vêtements blancs, c'est le deuxième conseil ici. Blanc, et vous l'aurez noté, par opposition à la laine noire qui était produite dans la manufacture à Laodicée. Le blanc représente justement une vie sans compromis avec le monde et ses pratiques, une vie juste, une vie pure, honnête, intègre. Les personnes qui ont placé leur foi en Jésus, Dieu les revêt de vêtements blancs qui symbolisent les œuvres de justice qui accompagnent la foi en Jésus. Il en parlera au chapitre 19 de l'Apocalypse. Et enfin, acheter un collyre pour les yeux, pour que l'Église puisse voir la vérité sur Jésus, sur ce qu'il a accompli, mais voir aussi la vérité sur elle-même, sur sa réelle condition, sur les choses qui ne vont pas dans sa vie et qui ont besoin de changer. Et ça fait la transition avec ce qui suit. On vient de voir le bilan, on vient de voir ce triple conseil, et maintenant, la réponse que Jésus attend de la part de l'Église, de la part de chacun d'entre nous, si nous nous reconnaissons dans ce qui est dit ici. Une réponse en deux temps, en deux étapes. Tout d'abord, le zèle et la repentance, verset 19. « Moi, je reprends et je corrige ceux que j'aime. Sois donc zélé et repens-toi. » Jésus cite ici Proverbe chapitre 3, verset 12. « Moi, je reprends et je corrige ceux que j'aime. » La correction du Seigneur n'est jamais pour nous faire du mal, mais pour notre bien. Pour nous pousser justement à la repentance, à une vie zélée pour le Seigneur. La sévérité du Seigneur, c'est une marque de son amour pour nous, pour son Église. Il aime cette Église de Laodicée malgré tout. Même si elle se trouve dans une situation où il n'a que des reproches à lui dire. C'est important de le mentionner. Dieu n'aime pas le péché, bien sûr, mais il aime le pécheur. Il nous aime. Il veut notre bien. Il veut nous sauver de la condamnation à cause de nos fautes. Il a tout accompli par sa mort sur la croix. Et il appelle ici au zèle et à la repentance. Faire preuve de zèle, voilà bien ce qui faisait défaut à cette église de Laodicée. Le zèle, la ferveur, la passion pour Jésus, ce sont des qualités qu'il nous faut rechercher. Elles sont à l'opposé de la tiédeur, à l'opposé de la tiédeur. Quant à la repentance, c'est ce fameux demi-tour que le Seigneur attend de nous pour abandonner notre ancienne manière de vivre et pour adopter une nouvelle manière, une manière qui est résolument tournée vers le Seigneur. C'est un demi-tour. Quand on fait un demi-tour, on fait 180 degrés. La repentance, ce n'est pas seulement 60 degrés ou 120, c'est 180. Ça implique une résolution radicale dans notre vie. Faire preuve de zèle, changer dans notre comportement, voilà donc la première réponse attendue par Jésus de la part de l'Église de Laodicée, de la part de chacun d'entre nous. Si nous reconnaissons avoir besoin de, si nous nous sentons interpellés ici par l'une ou l'autre chose qui est dite. Et puis la seconde étape, c'est verset 20. Je la résume en un mot, la foi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. C'est une invitation ici qui est lancée par Jésus à retrouver avec lui une communion qui avait quasiment disparu. Le repas dont il est question, là, ce souper, il pointe du doigt vers le banquet des noces de l'agneau dont le livre de l'Apocalypse parlera dans les derniers chapitres. Mais en même temps, on peut aussi y voir un appel personnel que Jésus lance à chacun d'entre nous. D'ailleurs, Jésus dit « Si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un, chacun d'entre nous, nous sommes interpellés ici. Chacun est concerné par cet appel. C'est à chacun de répondre à cet appel et de recevoir Jésus dans sa vie. » Ça dit encore une fois quelque chose aussi de la grâce de Jésus, c'est que malgré les échecs, malgré les manquements des Laodicéens, eh bien son invitation demeure. La porte est encore ouverte, on peut y entrer. Jésus se tient à l'importe et il nous invite à lui ouvrir, à nous aussi, aujourd'hui. Nous sommes comparés ici à une habitation. Jésus veut venir nous rendre visite, il veut souper avec nous. Il se tient dehors, il frappe à la porte. Et il attend qu'on lui ouvre. Il nous fait cette promesse que si nous lui ouvrons, il entrera dès maintenant dans notre vie. C'est une promesse pour le présent, maintenant il sera là. Je sais que notre culture occidentale n'est pas très... avenante avec les colporteurs. Ils ne sont pas toujours les bienvenus. Mais Jésus n'est pas un colporteur comme on en voit tant aujourd'hui dans le démarchage téléphonique ou boîte aux lettres ou à la sonnette de la maison. Peut-être que Jésus frappe à la porte depuis plusieurs années ou simplement plusieurs mois et nous n'entendons pas. Ou alors nous refusons d'entendre et nous sommes là, derrière le Judas de la porte, à regarder qui est dehors. Tant que nous n'ouvrons pas la porte, il ne peut pas entrer. Parce que Jésus ne veut pas nous faire une violence. Il ne nous force pas à ouvrir. C'est à nous d'ouvrir. Mais attention, si nous le faisons entrer dans notre vie, si nous le faisons entrer dans notre maison, ce n'est pas pour le laisser dans l'entrée. Alors ok, tu rentres, mais tiens, je t'ai mis un siège là, tu restes dans l'entrée. Et tu ne vas pas plus loin. Ce n'est pas pour ça. Si Jésus entre, c'est pour le faire entrer dans toutes les pièces de notre maison, pour reprendre cette image que Jésus emploie ici. Pour le faire entrer dans tous les domaines de notre vie. On ne peut pas dire à Jésus... tu rentres, mais tu ne vas pas à l'étage. Ou tu ne vas pas dans la pièce du fond, là-bas, au bout du couloir. On ne peut pas dire à Jésus, « Ok, je veux bien que tu m'accompagnes au travail, mais par contre, la gestion du temps, ce n'est pas ton domaine, je le gère. » Ou la gestion de l'argent. Ça ne marche pas comme ça. Si nous lui ouvrons la porte, alors Jésus entrera chez nous. Il établira sa demeure en nous par son esprit. Il nous transformera toujours un peu plus chaque jour à l'intérieur de nous-mêmes pour que nous apprenions à voir les choses comme lui les voit et non plus comme le monde les voit. Il nous donnera des richesses, mais ses richesses à lui, ses grâces, c'est quoi ? Nous serons sauvés, nous aurons la vie éternelle, nous serons réconciliés avec Dieu. Nous ne serons plus jamais seuls. Nous vivrons la communion avec Dieu. Il soupera avec nous. Ce repas du soir qui était l'un des repas les plus importants dans la communauté à l'époque. Mais pas seulement ça, si Jésus entre chez nous, il nous vêtira de vêtements blancs. C'est-à-dire qu'il pardonnera nos péchés, il nous purifiera, il nous invitera aussi à endosser une nouvelle manière de vivre qui est marquée par la justice, ce que représente aussi dans le livre de l'Apocalypse les vêtements blancs. Et pas seulement ça, mais il nous guérira de notre cécité pour que nous prenions conscience de notre véritable état et que c'est en lui et en lui seul que nous avons tout ce dont nous avons besoin. Il guérira nos yeux sur le plan spirituel. Où en sommes-nous avec cet appel ? Où en sommes-nous avec ce... Jésus nous lance cet appel à chacun, individuellement. Peut-être que nous fréquentons l'Église depuis des années sans jamais avoir ouvert la porte à Jésus. Si tel est le cas, vous l'avez compris, il est encore possible d'ouvrir la porte et de le laisser entrer. Nous sommes aujourd'hui encore sous le temps de la grâce, sous le temps de la patience de Dieu. Peut-être que nous n'avons encore jamais marqué un réel engagement à suivre Jésus. Nous sommes simplement peut-être des sympathisants, mais ça ne va pas vraiment plus loin. Alors relisons la lettre à Laodicée. Pas de place pour la tiédeur. Pas de place pour le compromis. Et changeons de comportement. Peut-être nous l'avons fait entrer, vraiment. Il y a peut-être de cela même des années. Et posons-nous la question, est-ce qu'aujourd'hui, Jésus a accès à toutes les pièces de ma maison? Ou est-ce que je lui ai subtilement fermé une porte quelque part, parce que cette porte-là, je ne veux pas trop qu'il s'en mêle? Est-ce que j'ai besoin de prendre cette résolution, de me repentir, de changer de comportement pour telle ou telle chose que je sais contraire à la volonté de Dieu? Est-ce que Jésus est à la première place dans ma vie, dans tous les domaines de ma vie? Est-ce qu'il règne dans ma maison? Est-ce que je suis entièrement engagé de tout mon cœur à servir Jésus, en comptant sur sa grâce, bien sûr, en comptant sur son aide, l'aide de son esprit? Mais est-ce que je suis engagé à, même après 40 ans de vie chrétienne, ou plus? Est-ce qu'il est ma seule véritable richesse? Prenons chacun pour nous-mêmes notre température spirituelle. Où en sommes-nous? Sommes-nous froids? Sommes-nous tièdes? Sommes-nous bouillants? À cette promesse concernant le présent, Jésus ajoute une promesse concernant l'avenir. Au verset 21, nous lisons « Le vainqueur, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Le vainqueur ici, c'est toute personne qui entend, qui prend en considération, qui écoute, qui obéit au message de Jésus. Jésus promet une récompense au vainqueur. Il promet d'entrer là dans la vie présente, maintenant et pour l'éternité, mais il promet aussi quelque chose pour l'avenir. Cette promesse, c'est de régner avec lui. Ça peut vous inspirer, ça peut nous inspirer à surmonter la tiédeur en visant une foi qui est victorieuse, qui est bouillante, une foi qui va de progrès en progrès. Nous régnerons avec lui. Le texte ne dit pas précisément en quoi consistera l'autorité ou encore la responsabilité que nous aurons. Mais ce qui est important de retenir ici, c'est que si nous laissons entrer Jésus dans notre vie, dans notre maison, lui nous fera entrer dans la maison du Père. Si nous permettons à Jésus de s'asseoir à table avec nous pour souper avec nous, il nous fera également participer au souper au festin des noces de l'agneau lors de son retour. Et ça, c'est une belle perspective. Quand on y réfléchit, c'est une belle perspective. Nous sommes donc devant un choix et notre responsabilité est engagée. Ça ressort avec ce verset 22 qui vient résonner comme un ultime appel. Ce verset qu'on avait écrit toujours de cette manière dans chacune des sept lettres, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Alors écoutons. Pas de place pour l'apathie spirituelle. Pas de place pour l'autosuffisance. Pas de place pour la tiédeur. Mais oui à un cœur sans partage pour le Seigneur Jésus. Oui à un engagement authentique et passionné pour le Seigneur Jésus. Oui, à une foi authentique et fervente, résolue à suivre, à obéir au Seigneur Jésus. Amen.